Ce soir, j'ai tellement à dire que je ne sais pas comment je m'y prendrai. Dieu sait combien déjà j'ai été long ces soirs passés. Mais ce livre est tellement passionnant, tellement remarquable que on y passerait des heures sans nous en rendre compte. J'ai demandé qu'on vous lise tout le chapitre de Daniel 8, parce que dès le premier soir, je vous avais signaler que Daniel avait une vocation de la part de Dieu de mettre plein feu sur l'Antichrist à partir de personnages et qui portaient en eux certaines caractéristiques de l'Antichrist final et qui ont été en leur temps des types, en même temps que des prototypes de l'Antéchrist. Après le texte que vous venez d'entendre, lu en Daniel 8, écoutons ensemble quelques autres textes, par exemple, au livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, qui vont tout à fait dans le même sens, à partir du verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ceci reprend la vision de Daniel au chapitre 7 que nous n'avons pas eu le temps, que nous n'aurons pas le temps de revoir. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème, la bête que je vis était semblable à un léopard. Il est question de léopard en Daniel 7. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Il est question d'un ours en Daniel 7. Et sa gueule comme une gueule de lion. Il est question d'un lion en Daniel 7, si vos souvenirs sont bons. En quelque sorte, la dernière bête, l'Antéchrist réunira les caractéristiques de tous ces empires dont il est question déjà en Daniel 2, à propos de cette grande statue que nous avons vue ensemble le premier soir, dont il est question aussi en Daniel 7, à propos des 4 bêtes, et dont il est question en Apocalypse 13. En quelque sorte, l'Antéchrist final réunira les caractéristiques de des rois de tous ces empires. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors ceci nous fait savoir que, en fait, ce sera l'ennemi qui sera la force de l'Antéchrist, toute sa puissance. Et nous l'avons entendu tout à l'heure en Daniel 8 à propos de ce roi qui se lèvera de façon artificieuse et imprudente. Il sera puissant non pas, avons-nous entendu, par sa propre force, mais bien entendu par la force de l'ennemi qui le suscitera. Et puis, un peu plus loin, il est dit que, au verset 3, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La bête donc s'en prendra jusqu'à ceux qui habitent dans le ciel. Un peu comme nous l'avons vu, de cette corne qui s'est élevée après les 4 cornes qui ont succédé à la corne du bouc, nous allons étudier ces choses dans quelques moments, et qui s'en était pris à l'armée des cieux. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, un gouvernement mondial. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. qui a été immolé. Et puis là, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Tout d'abord, quelques préliminaires concernant Daniel 8. Je disais dès le premier soir que le livre de Daniel a été écrit en deux langues. Il a été écrit au chapitre 1 en langue hébraïque, du chapitre 2 au chapitre 7 en langue araméenne, et à partir du chapitre 8 jusqu'à son terme, jusqu'au chapitre 12, le livre de Daniel a été à nouveau écrit en hébreu. Alors, la question qui nous vient de façon irrésistible, pourquoi du chapitre 2 au chapitre 7, ce livre a-t-il été écrit en araméen? J'ai eu l'occasion de l'expliquer, en particulier hier soir peut-être. L'araméen ayant été la langue officielle, en même temps qu'internationale, de cette région du monde. C'était une langue couramment parlée déjà en Babylonie, et la Babylonie l'avait étendue, j'allais dire, à toutes ses frontières, en tout cas à tous les pays sur lesquels elle avait régné, et puis en araméen, surtout parce que ces chapitres, du chapitre 2 au chapitre 7, le message est adressé surtout aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Tandis que, à partir du chapitre 8, le message est toujours adressé aux païens, mais, j'allais dire, oui, en rapport avec leur relation, leur lien avec Israël. La vision du chapitre 8, ceci il nous faut pour comprendre ce chapitre 8, la vision du chapitre 8, en même temps que celle du chapitre 7, que nous n'avons pas le temps de voir ensemble, sont antérieures au chapitre 5. Il est important de le souligner. Pourquoi ? Parce que Belshazzar fut tué au chapitre 5 de Daniel. Et au verset 30, par les armées, justement, des Mèdes et des Perses. Tandis que les visions du chapitre 7 et 8, en particulier du chapitre 8, puisque nous l'étudions ensemble, s'étaient situées lors de la troisième année du règne de Belshazzar. Donc Belshazzar régnait sur Babylone, comme vice-roi. Je l'expliquais hier, il était le deuxième, son père était un certain Nabonide, les tablettes cunéiformes dont j'ai parlé hier ont retrouvé trace de Belshazzar, lequel ne doit pas être confondu avec le nouveau nom qui fut donné à Daniel, Belshazzar, hein, Belteshazzar. Parce que souvent, ceci, disons, échappe, et on pourrait confondre Daniel avec le roi, pas du tout. Alors cette vision donc s'était située lors de la troisième année du règne de Belshazzar, tandis que la vision du chapitre 7 s'était située lors de la première année de son règne, du règne de ce vice-roi. Et nous comprenons pourquoi ce roi Belshazzar avait dit à Daniel, si tu m'interprètes la vision que j'ai eue de cette main écrivant sur la muraille, pesée, trouvée léger, etc., tu seras le troisième dans mon royaume. Il aurait pu lui proposer la deuxième place, comme Nebuchadnezzar le fit pour Daniel. Nous disions hier que Nebuchadnezzar avait nommé Daniel comme son premier ministre, et qu'en fait Daniel avait accepté de cohabiter, une cohabitation, hein, avec un roi païen. Mais il ne pouvait pas lui attribuer la deuxième place, puisqu'il l'occupait, Belshazzar, en tant que vice-roi de son père. Alors, il lui avait fallu proposer à Daniel, qui lui avait révélé et expliqué la vision, la troisième place, ce qui fut fait. Enfin, ce qui fut fait, Belshazzar fut tué la nuit même de l'explication de cette vision. C'est donc lorsque Babylone existait encore, que Daniel a eu ses visions, et en particulier la vision du chapitre 8. Il est important de le souligner. Pourquoi ? Parce que Daniel avait pu ensuite vivre quelque chose des prédictions qui lui furent données quant à l'invasion des Mèdes et des Perses à partir du chapitre 6. Lorsque Belshazzar est tombé sous les coups justement des armées des Médo-Perses, c'est Darius qui prit la tête, qui prit les commandes à Babylone, mais ce Darius, j'allais dire, contrôlé par un certain Cyrus, dont il sera question dans quelques instants. Et Daniel, qui avait prédit l'avènement de l'Empire Médo-Perse, avait pu en vivre quelque chose, en tout cas le commencement du règne de cet empire Médo-Perse. Et je disais également que si Nebuchadnezzar avait été en soi un type de l'Antéchrist avec son image, etc., cette statue qu'il avait fait dresser pour se faire adorer par son biais, ces autres rois, comme Darius, comme ceux qui ont suivi, ont été eux aussi des types et des prototypes de l'Antéchrist. Darius, au chapitre 6, avait mené une vie assez difficile à Daniel, qu'il appréciait pourtant énormément. Mais une fois en place, on lui avait soufflé l'idée qu'il pouvait se faire passer pour Dieu pendant un mois. Et il avait lancé cet ordre que pendant un mois, eh bien, on adorerait et on ne prierait que sa personne. En cela, nous pouvons dire que ce Darius, lui aussi, avait eu une dimension d'antichrist avant le temps. Mais ça n'est en fait pas tellement Darius ni Cyrus, lequel Cyrus a été appelé le oint de l'Éternel, le berger même, que l'Éternel a pu susciter en faveur d'Israël. D'autres, après eux, ont été des figures tellement, tellement caractéristiques et tellement précises de celui qui doit venir, qui n'est pas encore venu, pour dominer ce monde et pour le conduire à sa perte. Pourquoi donc Dieu avait-il révélé à Daniel cette prophétie entendue tout à l'heure du chapitre 8 pour préparer son peuple à Babylone, aux persécutions qu'il devait subir assez vite de la part de rois qui devaient justement venir pour dominer sur la Babylonie et sur le monde connu d'alors, pour donner aussi aux Juifs, ceci est intéressant, une idée générale de la marche de l'histoire. En même temps qu'une idée générale de la marche de leur histoire en particulier. En cela, je dirais que l'étude est tout à fait passionnante. Elle m'a passionné. C'est-à-dire que j'en ai retiré énormément de profit. Oui, pour donner aux Juifs, donc, une idée générale de leur histoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'avènement de l'Antéchrist final. Et puis, pour leur donner aussi de réaliser la main de Dieu sur eux. C'est important. Dieu a-t-il abandonné son peuple ? Loin de là, dit l'apôtre aux Romains. Certains pensent que Dieu a fini par abandonner son peuple et que l'Église a supplanté de façon définitive Israël. Mais certainement pas. Dieu a-t-il abandonné son peuple ? Loin de là. Et si son peuple, bon, a manqué, a péché, si pendant un temps il a été mis à l'écart, et qu'il a dû souffrir justement les conséquences de ses inconséquences, la faute n'en avait certainement pas été à Dieu, mais il y a promesse de réintégration de ce peuple juif, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, sous la plume du grand apôtre, par exemple, en Romains 9, 10 et 11, tout à fait magistral, ces exposés sur Israël et sa réintégration dans ses prérogatives premières. Mais aussi pour annoncer à ce même peuple d'Israël le royaume messianique. Oui, le règne du Messie, non seulement sur ce peuple qui l'avait rejeté, mais le royaume messianique sur toute la terre, dont il est abondamment question dans les Saintes Écritures, avec aussi la promesse que l'Antichrist sera brisé, que la venue de Christ, du Messie sur cette terre, entraînera sa ruine, et que sa fin doit arriver. Alors, pour résumer tout cela, nous pouvons dire que Daniel a été pour Israël, j'allais dire, de la part de Dieu, des oracles d'espoir, un message d'espérance pour un peuple qui pouvait verser dans le désespoir, étant donné tout ce qu'il avait pu vivre déjà dans cette captivité à Babylone, et puis dans tout ce que Daniel avait annoncé de difficile pour lui dans ses prophéties d'Acte 8. Voilà donc pour ce qui est des préliminaires à cette vision de Daniel 8. Au verset 2, Daniel dit qu'il a été transporté en songe, certainement, à Suse, la capitale. Alors, gardons toujours à l'esprit que Daniel a prophétisé cette vision, en quelque sorte, c'est ce rêve du temps de l'Empire babylonien. Or, du temps de l'Empire babylonien, la capitale, c'était Téville. On a parlé hier, on a fait une description de Babylone, hein, pour ceux qui aimeraient avoir ce message d'hier soir, je crois qu'il est à la disposition, bien entendu, sous forme de cassette. C'était Babylone qui régnait, n'oublions pas cela. Or, lui est transporté à Suse, qu'il qualifie de capitale. Quelle capitale? C'était Babylone, sa capitale. Ça n'était pas du tout Babylone, c'était pas du tout Suse. Comment Daniel a-t-il pu parler de Suse comme d'une capitale? S'il avait révélé cette vision, on comprend pourquoi Daniel avait tenu secrète cette vision. Parce que s'il avait été chanté à Belshazzar, son roi, n'est-ce pas, bientôt des étrangers, des ennemis viendront et la capitale ne sera plus Babylone, mais elle sera Suse, ben, je crois qu'il l'aurait jeté à nouveau dans la fosse aux lions, enfin. Il aurait subi, encore que la fosse aux lions était intervenue après Belshazzar, sous Darius. Mais certainement que Darius, ou plutôt Belshazzar, n'aurait pas du tout apprécié ce genre de prophétie. Mais qui a pu lui révéler que Babylone cesserait d'être la capitale et que Suse remplacerait Babylone? Et en effet, lorsque les Mèdes et les Perses ont envahi Babylone, l'ont prise, ils ont établi leur capitale royale à Suse, sur les bords de la rivière Oulaï. Ceci est impressionnant. Alors, les détracteurs de la Bible disent non, ça n'est pas possible. C'est tellement précis que Daniel n'a pas existé avant ces événements-là. Il a dû les connaître et les lire pour écrire ce genre de choses. Bien entendu, il s'agit de détracteurs, de théologiens libéraux. Mais pour nous, nous croyons que Dieu est capable d'inspirer un prophète pour lui annoncer avec précision les choses qui doivent arriver. Il avait donc reçu cette révélation d'en haut. Il aurait pu passer pour fou. Oui, pour fou. Babylone était tellement impressionnante, tellement puissante, qu'en annonçant une autre capitale pour bientôt, on l'aurait pris pour un fou. On l'aurait peut-être interné dans un asile psychiatrique à Babylone, s'il en existait, n'est-ce pas? Et ceci donc s'est effectivement concrétisé avec l'invasion médo-perse. Et ce fut tellement vrai que Esther, la fille adoptive de Mardochée, quand elle devint l'épouse de Xerxès, l'Assuérus, le même bonhomme, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle devint reine, ce fut à Suse qu'elle monta sur le trône d'Assuérus pour devenir reine du royaume de l'Empire Médo-Perse. Trône que Darius Ier avait justement établi avant même l'avènement d'Assuérus. Je vous invite, si vous étudiez Daniel, surtout à partir du chapitre 6 et l'avènement de l'Empire Médo-Perse, à vous en référer aussi au livre d'Esther, tellement intéressant à cet égard. Et c'est aussi de Suse, quelle prophétie, que Néhémie a pu revenir à Jérusalem avec la permission d'Arda, Xerxès, qu'il servait, il avait été son échanson. Donc lorsque Néhémie avait été sur le point de rentrer en Israël et à Jérusalem en particulier, il s'était situé à Suse. Et il est précisé que Suse était aussi la capitale. Donc ces expressions ont été reprises en leur temps par, c'est-à-dire des livres comme ceux d'Esther, comme ceux de Néhémie, tandis que Daniel, lui, les avait annoncés et il aurait pu passer en son temps pour totalement fou, tandis qu'il recevait ces révélations. Donc, après Babylone et après ses rois, les Mèdes et les Perses avaient fait de Suse la capitale royale de leur empire. Dans ce chapitre 8 du livre de Daniel, nous rencontrons 8 cornes. Je propose que nous les passions en revue. Et pourquoi ai-je eu, disons, le désir d'entrer dans une explication de ces choses? Parce que très souvent nous passons sur ces textes comme chat sur braise, tellement mystérieux qu'ils peuvent être à nos yeux, à nos cœurs, à nos esprits. La corne, pour commencer avec ceci, la corne est synonyme de puissance dans la Bible. Elle est synonyme de domination, elle est synonyme d'autorité, elle est synonyme de force. Dans, j'allais dire, pour ce qui est de pays et de leur puissance, que pour ce qui est d'individus et de leur force et de leur puissance. Par exemple, au psaume 148, verset 14, le psalmiste a pu dire « Il a relevé ma corne ». Évidemment, la plupart du temps, c'est traduit par force. Mais la corne est synonyme donc de force. Toutes ces cornes, nous allons passer en revue, ont été des types, je le répète, et des prototypes de l'Antéchrist. Voilà pourquoi il est intéressant de nous pencher sur ces cornes. Et ensemble, ces cornes nous permettent de comprendre, de saisir ce que sera en fait la dernière corne, c'est-à-dire l'antéchrist final, qui sera, comme je le disais tout à l'heure, la synthèse de toutes ces cornes. Et Daniel, je le disais, eut vocation justement de mettre plein feu sur la dernière corne, celle de l'antéchrist qui n'a pas encore paru, et dont il a donné certaines révélations. Je vous donne des textes en Daniel 7, 23, 26, Daniel 8, 23, 26, et Daniel 9, 26, 27. Mais en Daniel 8, tandis que précédemment, il avait mis plein feu sur quatre empires. Alors rappelons ces empires, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, combien n'étiez-vous pas là précédemment? Levez la main pour voir. Oui, quelques-uns. En Daniel 2, quatre empires, l'empire babylonien, qui était justement symbolisé par la tête d'or massif. Ensuite, l'empire médo-perse, fait d'argent. L'empire grec, des reins. Et l'empire romain, de fer, les jambes. Et cet empire romain se terminant par ses 10 orteils, en partie faites de fer et en partie d'argile. Il avait donc prophétisé sur quatre empires, c'est très exactement ce qui s'est passé après Daniel et des siècles après lui, de façon absolument époustouflante. Je vous invite à considérer de près ces choses, et vous en serez vraiment bénis en tant que nourri avec l'aide de notre Dieu. Quatre empires, ces quatre empires sous la forme d'un homme énorme, que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut la vision, s'est trouvé être cette statue, projetée alors au chapitre 7, sous la forme de bête. Quatre animaux, un lion ailé, Babylone, un ours, avec trois côtes dans sa gueule, on va l'expliquer dans quelques instants, puis ensuite un léopard ailé, alors l'ours donc les Mèdes et les Perses, puis ensuite un léopard ailé, la Grèce, et pour finir une bête indéfinissable, monstrueuse, écrasant tout sur sa route, Rome, la Rome impériale, hein, qui avait mis sous ses pieds justement la Grèce impériale, hein, après quelques années, en tout cas vers l'an 30 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi, par exemple, disons-nous, de cette forme humaine, ces quatre empires se sont retrouvés sous la forme de bêtes? Et nous disions ce qui suit, humanité, la statue d'un homme, pas, sans divinité, parce que tous ces empires ont cru devoir faire leur route sans Dieu. Sans divinité égale bestialité. Bestialité. Tandis que, au chapitre 8, il n'est pas question des quatre empires. Il est question de deux empires. De l'empire médo-perse, sous la forme d'un bélier, et de l'empire grec, sous la forme d'un bouc. C'est intéressant. Tout à fait intéressant. Pourquoi donc ces deux empires? Simplement que le premier, l'empire médo-perse sous la forme du bélier, devait apporter la délivrance au peuple d'Israël pour lui donner de réintégrer son pays. Et ceci s'est fait, comme vous le savez, sous Artaxerxès, sous Cyrus, etc. Et n'est-ce pas, c'est de cette façon-là que Néhémie et Esdras ont pu réintégrer le plus beau des pays. Il est remarquable que ces rois aient pu faire tomber ces rideaux de fer, hein, et d'airain, comme dit par exemple le chapitre 45 d'Ésaïe le prophète. Ce qui est remarquable là encore, c'est que Ésaïe avait cité le nom du roi qui permettrait à Israël de rentrer, Cyrus, au chapitre 44 au verset 28, au chapitre 45 au verset 1. Et dans ces textes, à propos justement de la libération du peuple juif, pour lui permettre pour lui permettre de réintégrer son pays, ce Cyrus a été présenté par Ésaïe le prophète comme ayant été un berger que Dieu avait suscité pour le peuple de Dieu. Et puis au chapitre 45, verset 1, comme le oint de Dieu. C'est curieux, hein? Mais c'est pourtant vrai. Alors, d'abord le royaume donc médo-perse, lequel avait permis à Israël donc de rentrer, mais le deuxième, celui de la Grèce sous la forme du bouc, qui serait le royaume qui le persécuterait à mort, et qui justement ferait figure prophétique de ces temps difficiles vers lesquels nous marchons, la Grèce. Alors parlons du bélier. Voilà. Daniel transportait à Suse, tout à coup, vit un bélier. Un animal à deux cornes. L'une de ses cornes était plus haute que l'autre. Elle s'éleva pourtant la dernière. Quelle explication donner à cela? Eh bien, la suivante. Alors, point n'est besoin de spéculer, puisqu'il nous est déjà dit, pour explication, verset 20 du chapitre 8, que les deux cornes sont les rois des Mèdes et des Perses. On apprécie beaucoup quand la Bible elle-même donne explication de ces mystères. Hein. Deux royaumes qui s'étaient unis en une seule bête, le bélier. Pour mieux cerner la situation géographique de ces régions, la Médie, plutôt, elle se situait dans l'Irak actuel. Et puis, la Perse, dans l'Iran actuel. Comme ça, nous situons peut-être mieux, puisque nous avons une carte. La prochaine fois, il faudra une carte. C'est important, on va suivre de façon plus précise. Donc la Perse, l'Iran actuel. Selon nos historiens, les soldats de l'Empire médo-perse portaient un bélier ou une tête de bélier sur leur armure ou sur les roues de leur char de guerre quand ils allaient au combat. Dans le zodiaque, le bélier, en tout cas anciennement, a toujours été lié à la Perse. Et nous savons que l'astrologie a vu le jour dans cette région du monde. Le bélier a longtemps donc symbolisé la Perse. D'où cet animal pour parler de l'empire médo-perse. Une corne était plus haute que l'autre. Cette corne plus haute s'éleva donc la dernière pour, j'allais dire, rattraper l'autre et la dépasser. Quelle explication? La Médie, et ceci est reconnu par l'histoire, fut pendant longtemps l'empire le plus grand au nord de la Babylonie. Un empire puissant. Un empire même qui aida Babylone à conquérir la Syrie en 612 avant Jésus-Christ. Elle fut la corne la plus grande pendant un temps. Quant à la Perse, elle fut précédemment un petit pays désertique plus à l'est de la Médie. Mais un certain Cyrus arriva. Tout ceci est reconnu par l'histoire, hein, qui corrobore tout à fait ce que la Bible nous enseigne. Je dirais que là encore, c'est impressionnant. Un certain Cyrus arriva, un véritable génie dans bien des domaines, et en particulier dans le domaine militaire. Il avait pu s'emparer de la Médie en l'an 550 avant Jésus-Christ, et il fit de la Perse la puissance la plus forte du Moyen-Orient. D'où cette corne, partie la dernière, ayant rattrapé la première pour la dépasser ensuite. Nous voilà donc situés, et ce grâce également à nos historiens et à nos archéologues, sur la signification de cette corne venue la dernière pour être la plus puissante. La Perse, en effet, fut dans ce royaume médo-perse la plus puissante. Sous son gouvernement, la Perse poussa vers l'Occident, c'est écrit textuellement, hein, dans ce que nous avons entendu tout à l'heure. Elle poussa donc vers l'Ouest. Elle s'empara de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Elle s'empara de l'Asie mineure en 546. Elle s'empara de la Syrie, la Perse. À propos d'Asie mineure, il y avait là un roi puissant, le roi de Lydie, un certain Crésus, réputé pour ses richesses, surtout en or. Et ce roi avait pu soumettre l'Asie mineure tout entière, alors que, pour commencer, il ne régnait que sur la Lydie. Eh bien, Cyrus n'en fit qu'une bouchée de ce roi. Et il put s'emparer de toute l'Asie mineure. Et les versets, par exemple, 4, entre autres, disent que personne ne pouvait lui résister à ce Cyrus. Dans quelque direction que ce fût, il était réellement le plus puissant. Au nord, il s'empara de l'Arménie et de régions autour de la mer Caspienne. Au sud, il avait pu envahir l'Égypte, l'Éthiopie. L'Éthiopie jusqu'à la Cyrénaïque. Il poussa donc ses conquêtes dans trois directions. Cet ours, Bancal, vous souvenez de ça, un ours Bancal, c'est ce qui nous est rapporté, puis avec une corde plus haute que l'autre. Vous savez, ces idées d'empire un peu bancal, nous les retrouvons donc au chapitre 7 comme au chapitre 8. On voit un ours qui ne se tenait que sur un pied. Il était bancal parce que, disons, il y avait eu inégalité entre la puissance perse et la puissance des Mèdes dans ce même empire médo-perse. Et puis là, une corde plus haute que l'autre, signifiant que la Perse dépassait vraiment en puissance le royaume de Médie. Alors, cet ours, au chapitre 7, il faut que nous expliquions cela aussi, et qui est repris, dont l'image est reprise en quelque sorte au chapitre 8, sous la forme de ce bélier, poussa vers l'Occident, vers le Nord et vers le Midi, dans les trois directions pour s'emparer de régions clés, d'où ces trois côtes dans sa gueule, l'Occident, le Nord et le Midi. Il est question donc de ces trois directions. Le bouc à présent. Verset 5 du chapitre 8. Alors, la Bible nous en donne l'explication au verset 21. Le bouc, le roi de Javan. Javan signifiant en hébreu, quoi ? La Grèce. Il s'agissait d'un bouc qui n'avait qu'une seule corne. Si l'autre était aussi une drôle de bête parce qu'il y a une corne plus haute que l'autre, dans cette métaphore du bouc, eh bien, là aussi, il y a anomalie, parce que généralement, le bouc a deux cornes. Mais Alexandre le Grand, étant donné l'homme qui l'a représenté, n'avait pas pu, j'allais dire, souffrir un autre puissant à ses côtés. Il avait été donc la seule corne de ce bouc au milieu des yeux de la bête. Il vint de l'Occident, c'est écrit cela. Il arriva de l'Occident. Verset 5. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Quelle explication donner à cela, hein ? Je crois que ceci veut nous donner de réaliser la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand s'était emparé du monde connu d'alors. En 10 ans, il a été le maître incontesté du monde. Et il avait même débordé les limites du royaume médo-perse. Personne n'avait pu lui résister. Beaucoup plus puissant que Cyrus, par exemple, et que le royaume médo-perse, même après Cyrus, Alexandre le Grand a été vraiment quelqu'un d'excessivement puissant. Alors, si le bouc symbolisait, comme disent les textes, n'est-ce pas, au verset 21 et la suite, si le bouc symbolisait la Grèce, il faut savoir que la mer Égée, littéralement en grec, c'est la mer du bouc. Le bouc n'a pas cessé de symboliser la Grèce. Alors, le bouc venait de la Grèce, aussi pour confirmer l'enseignement des Saintes Écritures. Le bouc est généralement plus fort et plus agile qu'un bélier. La Grèce avait été inquiète de la puissance médo-perse, dont la civilisation, était allée jusqu'aux portes de la Grèce et de la Macédoine. Le père d'Alexandre le Grand voulut combattre cet empire, un certain Philippe de Macédoine, mais il n'en eut pas le temps parce qu'il fut assassiné, il mourut assassiné, et c'est Alexandre le Grand, son fils, qui lui succéda en 336 avant Jésus-Christ. Savez-vous à quel âge Alexandre le Grand succéda à Philippe de Macédoine, son père? 21 ans. À 21 ans, mes amis, c'est jeune. À 21 ans. Je voudrais que nous réalisions l'homme qu'il fut. Un type, beaucoup plus que les autres. Hein. Avec Antiochus Épiphane, dans quelques instants, un type prophétique de l'Antéchrist, quelque chose d'absolument remarquable. Cet homme, mis sur pied très rapidement, hein, une armée de 35 000 hommes, une armée absolument imbattable, une armée tellement motivée qu'elle avait littéralement écrasé l'armée médo-perse qui lui était de loin supérieure en nombre, lisez les textes rapportés par nos historiens, c'est absolument fabuleux, au point que certains historiens aient pu dire que l'armée d'Alexandre le Grand combattait d'une façon qui n'était pas normal, ni habituel, de la part de soldats. Imaginez qu'il sortit de son pays à l'âge de 23 ans, et qu'à l'âge de 33 ans, le monde lui était soumis, que la Perse n'avait pas pu lui résister. Il avait donc détruit le bélier, l'avait mis complètement par terre en peu de temps, qu'il avait débordé les frontières du royaume médo-perse dans toutes les directions, qu'il s'était rendu jusque à la frontière de l'Inde, qu'il était entré en Afghanistan, dans le Béloujistan, qu'il était descendu sur l'Égypte, et qu'il avait poussé jusqu'en Afrique du Nord, il avait occupé l'Afrique du Nord. Vraiment remarquable, et puis aussi dans la direction de l'Ouest vers l'Europe, un empire beaucoup plus grand que celui, en tout cas des Médo-Perses. Et ceci en 10 ans. C'est-à-dire qu'à 33 ans, c'est aussi très jeune, il était le maître du monde connu d'alors. Alors, nos historiens reconnaissent qu'il fut un génie absolument remarquable, surtout sur le plan militaire, mais aussi sur bien d'autres plans. Un génie beaucoup plus remarquable que Cyrus lui-même, qui en fut un. Et certains même pensent qu'il a été le génie au plan militaire comme personne jusqu'à nos jours. Surtout pour sa jeunesse. On n'a pas de généraux, nous. Disons, à 23 ans, on n'est pas général en France. Il y a 25 ans, imaginez. Et nous n'avons pas de généraux à 33 ans. Lui, à 33 ans, il avait conquis le monde. Alors, à l'âge de 23 ans, donc 2 ans après avoir remplacé son père, il réussit à mettre sur pied une armée de 35 000 hommes. Il avait pu franchir les Lespons pour battre, dans un premier temps, les Perses à Granic, puis à Issos, près de Tars, il prit ensuite Damas, Sidon, Tyr, Jérusalem. De Jérusalem, il descendit en Égypte, où il bâtit Alexandrie, portant une ville donc bien connue qui portait son nom. Il repassa par la Palestine pour aller en Perse, où il vaincut Darius III, de Mède. Il prit alors Babylone, Suse, Persépolis. Et après de nouvelles conquêtes, il se rendit à Babylone, où il mourut au cours d'une orgie, à l'âge de 33 ans. Il était alors à son apogée, nous rapportent les historiens. Il était l'homme le plus puissant du monde, la corne qui dévastait tout sur son passage. Que nous en dit la Bible? Rappelez-vous sa mort à Babylone, subitement. Voilà ce que nous en dit la Bible, chapitre 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. Alors que quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Mais il mourut en raison, enfin pour ses propres fautes. C'était un homme qui aimait festoyer, il aimait guerroyer, mais il aimait festoyer. Ça n'est pas pour rien que la Grèce était symbolisée dans la statue par le ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ce qu'on pouvait s'envoyer là-bas, dans ce qu'il est convenu d'appeler la panse. On devait manger, parce qu'on était militaire. Et quand Alexandre le Grand faisait le siège d'une ville, avant même de s'emparer de la ville, il pouvait accorder, disons, de négocier avec cette ville pour ne pas la réduire en un tas d'immondices, comme dit la Bible. Mais il exigeait énormément de nourriture pour ses soldats. Les historiens nous le rapportent. Je le répète, ce n'est pas pour rien qu'il est symbolisé dans la statue par le ventre. Et les cuisses représentant aussi la puissance, surtout la marche en avant, les conquêtes. Alors, son empire, comme je vous le disais, en 10 ans, s'était étendu de l'Europe aux frontières de l'Inde, à l'Égypte, à toute l'Afrique du Nord. Et ces conquêtes s'étaient faites tellement vite que Daniel l'avait vu, là, dans cette vision du bouc, courant sur toute la surface de la terre, comme si, disons, ce bouc ne la touchait pas. La terre elle-même.